VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean Rochebillon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Et les chefs d'État et de gouvernement de 17 pays du Sahel vont tenir un sommet lundi à Niamey pour valider un plan d'investissement climatique de 400 milliards de dollars sur 12 ans. Claire Morin-Gibou.
Les 17 États de la bande sahélienne, allant de l'océan Atlantique à la Corne de l'Afrique, sont concernés par ce plan très ambitieux, selon les mots du ministre nigérien de l'Environnement, Al-Mustapha Garba, qui l'a présenté hier. Ce plan d'investissement climatique est axé sur 6 projets visant diverses actions sur le terrain pour limiter les émissions des gaz à effet de serre et pour permettre aux populations de s'adapter au changement climatique. Son coût est estimé à 400 milliards de dollars sur la période 2018-2030. Al-Mustapha Garba a insisté pour que ce programme prioritaire soit mis en œuvre sans attendre. Le plan sera soumis aux partenaires techniques et financiers lors d'une table ronde mardi prochain à Niamey en vue de son financement. La région du Sahel, qui abrite plus de 500 millions d'habitants, est extrêmement vulnérable face au changement climatique.
Au Tchad, une information judiciaire a été ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant une femme fouettée par deux hommes qui semblent être des militaires dans la région du lac Tchad, a annoncé mercredi le ministre tchadien de la Justice. Les auteurs de ces actes sont interpellés et ne tarderont pas à être déférés devant la justice pour répondre de leurs actes, a déclaré le ministre Djimet Arabi. Selon un militant tchadien des droits de l'homme, la victime a affirmé que l'un des deux hommes était un commandant de l'armée dont elle avait repoussé les avances. L'AFP n'a pu joindre les deux hommes incriminés. Au Nigeria, le chef de l'armée a exhorté les officiers à faire preuve de loyauté et à lutter contre la fraude électorale. Le pays tient des élections générales samedi. Eric Manirakiza.
Les commandants doivent agir de façon décisive contre tout crime électoral, a lancé le général Tuko Youssouf Buratai, et les exhorte à faire preuve de loyauté envers l'autorité. C'était lors d'une réunion de hauts responsables militaires hier à Abuja. Ces déclarations interviennent au moment où la tension monte après le report d'une semaine des élections qui devait avoir lieu samedi dernier. Le Congrès des progressistes au APC au pouvoir a tenu une réunion lundi au cours de laquelle le président sortant Muhammadu Buhari a eu des mots très durs. Il avait demandé aux militaires et à la police d'être impitoyables avec ceux qui se rendraient coupables de fraude électorale. L'opposition a critiqué ces propos, les considérant comme un encouragement à la violence. L'ancien vice-président et candidat du PDP, Atiku Abubakar, a déclaré que l'avertissement de M. Buhari constituait un rappel de l'ère de la dictature et du régime militaire.
En République démocratique du Congo, malgré la défaite de son candidat Emmanuel Ramazani Shadary à la présidentielle du 30 décembre dernier, le Front commun pour le Congo, ancienne coalition au pouvoir, fait bloc et annonce qu'il va diriger le prochain gouvernement. Cette coalition de l'ancien président Joseph Kabila revendique 340 députés sur les 500 que compte l'Assemblée nationale de la RDC. Elle attend désormais du nouveau président Félix Tshisekedi qu'il tire les conséquences de cette majorité parlementaire et désigne dans ses rangs, conformément à la Constitution, le futur Premier ministre congolais. Reportage de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Prenant acte de sa défaite à la présidentielle du 30 décembre dernier, le Front commun pour le Congo se satisfait tout de même d'avoir raflé la majorité à l'Assemblée nationale. Maître Nehemi Mwilanya, ancien directeur de cabinet du président sortant Joseph Kabila, est le coordonnateur du comité stratégique du Front commun pour le Congo.
La présidentielle ne nous a pas porté chance, mais en même temps, aujourd'hui, nous avons une large majorité parlementaire. La majeure partie des députés qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui sont des députés qui ont été élus sous la bannière de regroupements politiques, membres du Front commun pour le Congo.
Les cadres du FCC s'engagent désormais à se soumettre à la discipline de groupe. Ils ont pour cela manifesté leur solidarité et fidélité à leur initiateur, Joseph Kabila. Obin Minaku, ancien président de l'Assemblée nationale et haut cadre du FCC, souligne que désormais le président Félix Tshisekedi devrait tirer les conséquences de cette majorité parlementaire acquise au FCC et conformément à la Constitution, nommer un Premier ministre issus des rangs du Front commun pour le Congo.
Il y a une majorité parlementaire. Aujourd'hui, ce que nous allons avoir comme majorité se nomme FCC. Il faut en tirer les conséquences de droit. Et je suis sûr, je sais que le président de la République, qui est respectueux de la Constitution, tirera les conséquences.
Hier, coalition électorale, le FCC se mue désormais en plateforme politique et de gouvernement. Lambert Mende Omalanga est le porte-parole du gouvernement sortant.
La décision qui a été prise, c'est de transformer cette plateforme électorale que nous avons créée en une coalition gouvernementale autour du président du Front commun pour le Congo, qui est l'ancien président de la République, Joseph Kabila.
Et les Kinois interrogés au sujet du prochain Premier ministre FCC en attendent notamment une meilleure collaboration avec le président de la République, Félix Tshisekedi.
En ce qui concerne le Premier ministre qui viendra de FCC, que le Premier ministre qui viendra puisse aider les présidents au travail, qu'il puisse avoir bonne volonté d'y travailler bien avec le président en place pour que le peuple puisse se retrouver.
D'abord, cela ne vaut pas une surprise, d'autant plus que c'est constitutionnel et ils sont majoritaires au Parlement. Mais néanmoins, ça me laisse un sentiment de crainte dans la mesure où toutes les années antérieures qu'on a vécues, c'est le FCC qui a dirigé. Alors, nous risquons de tomber dans la routine et qu'à ce moment-là, on pourra dire adieu les changements. C'est ce que je crains.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La Cour pénale internationale a décidé de juger ensemble Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona, accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en République centrafricaine. La jonction entre les deux dossiers vise à accroître l'équité et la rapidité de la procédure en évitant le double emploi des preuves, les incohérences dans la présentation et l'évaluation des preuves, a fait savoir la chambre préliminaire de la CPI. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé aujourd'hui les arrestations arbitraires de journalistes dans le nord du Mozambique en proie à une insurrection islamiste et l'interdiction faite aux médias de couvrir ces troubles. Les forces de sécurité mozambicaines intimident, emprisonnent et poursuivent les journalistes qui couvrent les combats contre les islamistes dans la province du Cabo Delgado dans le nord, a dénoncé Human Rights Watch dans un communiqué. Pour l'Organisation des droits de l'homme, les actions du gouvernement mozambicain destinées à faire taire les médias dans le Cabo Delgado entravent le droit de regard du public sur les opérations militaires et les abus présumés.
Nos infos sur voaafrique.com.
Dans 30 secondes, il sera 6h08 à Washington. Les forces arabo-kurdes engagées dans l'Est syrien contre le groupe État islamique négocient la sortie des civils de l'ultime réduit djihadiste, a indiqué jeudi la coalition internationale amenée par Washington. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, a fait état mercredi de négociations en cours entre les FDS et l'État islamique pour obtenir une capitulation des djihadistes retranchés, évoquant un possible accord aux contours encore très vagues. Ministres américains et chinois entament aujourd'hui à Washington un round de négociations de la dernière heure pour tenter de dénouer un bras de fer commercial qui, depuis un an, met les nerfs des marchés et des industriels à l'épreuve. Le représentant américain au commerce, le secrétaire au trésor et du côté chinois, le vice-premier ministre Liu He doivent se mettre autour de la table pour 2 jours de pourparlers. Ces négociations à haut risque font suite à 2 jours de travaux dans la capitale américaine entre la délégation des deux pays. Rien ou presque n'a transpiré de ces discussions. La première ministre britannique Theresa May a salué hier des progrès dans ses discussions avec l'Union européenne, mais sa rencontre avec le président de la Commission n'a toujours pas permis d'éloigner le spectre d'un Brexit chaotique dans moins de 6 semaines. Madame May était de retour à Bruxelles avec l'espoir d'afficher d'obtenir des changements juridiquement contraignants de l'accord de divorce conclu avec l'Union européenne, mais rejeté de manière cinglante par son Parlement en janvier, alors que le Brexit est officiellement programmé le 29 mars. Et puis, au moins 70 personnes ont péri dans un gigantesque incendie qui a ravagé dans la nuit de mercredi à jeudi des immeubles d'habitation de la vieille ville de Dakar, où se trouvaient aussi des entrepôts de produits chimiques, ont annoncé les pompiers bangladais. Des dizaines de personnes ont été prises au piège sans pouvoir fuir, les rues paralysées pas les embouteillages, alors que les produits chimiques, des granules en plastique et des sprays déodorants notamment, étaient la proie des flammes. Le chef du service national des pompiers, Ali Ahmed, a prévenu que le bilan pourrait s'aggraver. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal. À tout à l'heure sur les ondes de la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.